Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Mmh. Les températures baissent.
Oui, c'était prévu et ça va d'ailleurs continuer les jours prochains. On retrouvera des gelées dès mercredi matin en attendant. Aujourd'hui, la baisse est sensible surtout dans l'est du pays où cet après-midi, on aura 5 degrés à Besançon et Grenoble, 7 à Dijon, à Metz, 8 à Lyon. Il fera encore 10 degrés à Paris, 11 à Brest, 12 à Nantes et Bordeaux. On aura 13 degrés à Ajaccio et 14 à Montpellier. En revanche, ce matin, c'est frais avec une moyenne de 2 à 6 degrés, beaucoup plus près de la Méditerranée puisqu'on a déjà 10 à 15 degrés en ce moment.
Côté ciel, c'est encore couvert.
Oui, on a même encore quelques averses sur le nord-est, un peu de neige sur les reliefs, de la pluie sur les Pyrénées. On a aussi quelques éclaircies qui vont arriver sur les côtes atlantiques et près de la Méditerranée. Ciel en revanche agité pour la Corse avec du vent. Mais l'amélioration va continuer cet après-midi sur la partie ouest. Les éclaircies reviendront par le nord-ouest. Tout le monde en profitera des Hauts-de-France jusqu'en Gironde. Ça va rester plus mitigé avec encore des averses et un ciel plus couvert du sud-ouest au nord-est. Du soleil encore sur le pourtour méditerranéen avec encore un petit peu de vent dans le sud-est. Amélioration aussi pour la Corse qui va cet après-midi retrouver son soleil.
Merci Céline. Eva Rock.
C'est l'anniversaire de David Abiker, notre monsieur revue de presse que vous retrouvez à 8h30 tous les matins. Alors on vous a demandé depuis 5h, quel journal ou magazine lisez-vous? Comment vous vous informez? Eh bien Bart nous dit, j'ai la chance d'avoir l'équipe et West France à disposition au bureau, mais sinon je lis des magazines papier comme Réponse Photo ou Auto Plus, et voici dans la salle d'attente de chez mon médecin, comme beaucoup de gens apparemment. Et puis Croissant Bleu nous dit que c'est le journal de Mickey qui la pâte avec des sujets tels que les animaux sauvages mignons. Et sinon, il écoute les infos via Internet et le journal de Céline Kallmann.
Ah, ça c'est un très très bon choix. Merci beaucoup, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos nappées d'une couche de fantaisie. Un 5-7 qui a su répondre présent lorsqu'on nous a demandé de mettre de côté les vieilleries musicales pour se concentrer sur les sons d'aujourd'hui afin de rester au contact de notre public cible. Un public cible qui n'a pas dû être déçu du voyage vendredi.
Personne dans le monde
ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde. Les apparences et les différences.
Eh ouais, nous on respecte bien les consignes qu'on nous donne. Heureusement, de vous les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin s'empare d'un événement symbolique, le déménagement de Peugeot de son site historique. Il nous explique pourquoi l'émotion est si forte côté syndicat.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 11 février. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce lundi 11 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Le restaurateur Bagelstein porte plainte. La vitrine d'un restaurant a été taguée en jaune samedi du mot Juden, juif en allemand. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. La piste criminelle privilégiée après une explosion suivie d'un incendie à Lyon ce week-end. Une femme enceinte et un enfant sont décédés. La grogne des auto-écoles aujourd'hui qui dénonce l'ubérisation de la formation à la conduite.
Europe 1.
Les gérants d'un restaurant de sandwich Bagelstein ont déposé plainte. La vitrine d'une de leurs enseignes parisiennes a été taguée en jaune du mot Juden, juif en allemand. L'inscription a été découverte samedi matin sur la façade de ce restaurant situé sur l'île Saint-Louis. Une enquête pour dégradation volontaire et provocation à la haine raciale a été ouverte par le parquet de Paris. Écoutez Gilles Abécassis, cofondateur de Bagelstein.
On n'a pas envie de rigoler du fond, mais on a envie de se moquer d'eux. Il ne faut pas laisser passer la pourriture, il ne faut pas laisser passer... les gens qui véhiculent de la haine, l'aigreur doit rester au fond de leur palais. Et d'ailleurs, je l'invite ou je les invite à venir goûter nos produits. Peut-être que ça les rendra un peu heureux. On ne laissera pas passer, c'est évident, mais on ne paniquera pas et ils ne nous empêcheront pas de faire ce qu'on a envie de faire.
Gilles Abécassis avec Jean-Gabriel Bourgeois, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé, je le cite, ce tag antisémite comme si les plus tragiques leçons de l'histoire n'éclairaient plus les consciences. Fin de citation. Une enquête ouverte suite à la main arrachée d'un manifestant samedi à Paris. L'homme sans doute touché par une grenade de désencerclement a été opéré. Par ailleurs, hier sur Europe 1, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a pointé du doigt la responsabilité des gilets jaunes. Elle estime que les 13 semaines de manifestations ont provoqué 65 000 cas de chômage partiel.
À Lyon, c'est donc la piste criminelle qui est privilégiée après un drame survenu samedi soir.
Une femme enceinte de 8 mois et son enfant sont décédés après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de 2 étages. 4 autres personnes ont été légèrement blessées. Ces dernières semaines, la boulangerie qui se trouvait au rez-de-chaussée avait déjà été la cible de tentatives d'incendie, comme le raconte ce voisin rencontré par Rémi Pierre.
3-4 jours avant cette situation-là, deux voitures qui avaient pris feu devant cette boulangerie. Deux mois en arrière, il y avait eu aussi un camion qui avait été rentré dans la boulangerie et qui avait été foutre le feu et tout ça. Donc pour moi, je pense que c'est criminel. Moi, je vous dis, tous les jours, je suis ici dans cette rue, j'habite ici. Et je vous dis honnêtement, on n'a jamais eu des trucs comme ça, ou que ça explose, quoi, carrément. Des voitures, tout ça, ça peut arriver, mais pas des explosions, monsieur. Tuer d'autres personnes, surtout encore une maman qui est enceinte et en plus avec un enfant en plus qui est décédé en plus dans l'appartement. Et ouais, je suis en colère.
Un propos recueilli par Rémi Pierre. Pour Europe 1, à bord d'une enquête ouverte après le dépôt d'une plainte contre X à la suite de l'agression de 3 personnes devant un bar gay du centre-ville ce week-end. Une des victimes a été hospitalisée. La circulation va être fortement perturbée ce matin au niveau de la porte d'Auteuil, porte de Clignancourt, Vincennes, porte d'Orléans à Paris. Les auto-écoles traditionnelles sont appelées au rassemblement pour protester contre la réforme de la profession voulue par Emmanuel Macron qui souhaite rendre l'examen moins cher et plus accessible, le permis de conduire, avec notamment la possibilité de s'inscrire directement à l'examen sans passer par un moniteur. Pour Benjamin Guignot, fondateur d'Ornicar, auto-école en ligne, il faut cette réforme.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la formation est de ses qualités? Est-ce que c'est l'auto-école, l'institution auto-école, ou c'est plutôt l'enseignant de la conduite? Je vais prendre un risque, mais je vais dire plutôt l'enseignant de la conduite, qui est diplômé. Et c'est cet enseignant qui est le garant de la sécurité routière. C'est pas la structure auto-école. Donc il faut absolument réinverser le rapport de force. Le problème de toutes les dérives qu'on a pu connaître depuis des années sur ce secteur, c'est que les auto-écoles disposent des places d'examen non nominatives. L'élève doit détenir sa place d'examen, dire « Ok, la place, elle m'appartient, elle appartient à personne d'autre, et je vais aller choisir mon formateur. »
Benjamin Guignot avec Claudia Bertram pour Europe 1.
Abdelaziz Bouteflika, candidat à un 5e mandat successif.
Oui, à 81 ans, l'actuel président algérien, dont l'état de santé reste très secret, l'a annoncé hier dans un message à la Nation. Le président de l'association de la communauté établie à l'étranger, Salah Adjab, cette nouvelle candidature est une mascarade.
En Algérie, il n'y a pas des élections, il y a des mascarades électorales. Des moments qu'il s'est présenté, c'est certainement qu'il va être, entre parenthèses, élu grâce à la machine de fraude qui est développée depuis des années. Donc oui, sincèrement, c'est trop. Et la situation, elle est grave en Algérie. Mais j'espère que les acteurs politiques, les militants, les politiciens, les opposants, ils tracent une feuille de route. Comme ça, le peuple va se mettre autour de ces gens-là et ils peuvent faire la pression. Face à ce pouvoir, leur patience, ça ne peut pas durer très très longtemps.
Salah Adjab avec Marion Jorte pour Europe 1. Les Grammy Awards.
Ouais.
C'est pas mal, hein?
Pas mal. C'était
cette nuit à Los Angeles.
Je suis allemand, mais anglais.
La chanteuse britannique Dua Lipa a été sacrée révélation de l'année. On l'écoute.
Plutôt une révélation pour moi, parce que j'avais jamais entendu son nom. Ah oui,
je vous avoue que
d'accord, oui, je connais cette chanson-là. On l'entend beaucoup au gym. Ah si, quand je suis sur l'électrique au gym, je suis là et j'entends cette musique.
Et elle devrait publier son deuxième album cette année.
Elle publie l'album.
Comme
une écrivaine. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, une journaliste avec qui, vous le savez, j'entretiens une certaine complicité, pour le dire pudiquement. Complicité qui parfois nuit à notre concentration durant son journal, vous savez.
En fait...
J'avais pris mon biscuit.
Et que j'avais envie de rigoler.
Heureusement, ce genre de dérapage zygomatique ne se reproduira plus car Céline a trouvé la parade, hein, comme elle me le confiait vendredi.
J'apprends à maîtriser mes fous rires. Ouais, c'est de l'auto-hypnose.
Ouais, c'est pas gagné, Céline. Vous auto-hypnotisez un peu mieux.
Le 5-7 est avec Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Vendredi, Fabrice Almeida nous parlait des extraterrestres. On ne sait pas ce qu'il lui avait pris. On en tremble encore. Mais ce matin, retour sur Terre avec Peugeot qui déménage de son site historique. Fabrice nous explique pourquoi l'émotion est si forte côté syndicat.
Il est 6h05. Il est 6h06, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur le temps.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Céline n'arrivera jamais à ne pas parler sur le jingle. Jamais.
On y
arrive. Peut-être fin juin.
J'ai une
alors
bonne nouvelle.
Céline, les éclaircies reviennent.
C'est ça, et pas partout hein, quand même. Mais pour le nord, le nord-ouest, oui. Et en descendant vers l'Aquitaine également, elles seront bien présentes cet après-midi. C'est encore un petit peu couvert ce matin. Du sud-ouest au nord-est, en revanche, le ciel va rester pluvieux, avec encore un petit peu de vent même dans le sud-est. Soleil près de la Méditerranée. Et pour la Corse, et puis bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux dont les vacances approchent et qui ont la chance de partir à la montagne, l'enneigement est excellent sur tous les massifs en moyenne et haute montagne. De plus, la neige est de très bonne qualité, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances et qui ont la chance d'en profiter, je l'ai déjà dit.
Merci beaucoup Céline Dacosta. Et Varoc.
C'est l'anniversaire de David Abicard en ce 11 février, notre monsieur revue de presse que vous retrouvez tous les jours à 8h30. Mais vous, quel journal ou magazine vous lisez? Comment vous vous informez? Alors Mathieu, tous nos auditeurs sont passés quasiment au numérique. Thierry nous dit plus de presse papier, mais presse numérique. L'info tombe sur Twitter et puis je cherche l'info. Jean-Sébastien nous dit, je suis abonné aux versions numériques du Figaro, du Monde ou de Courrier International. Il habite à Madagascar et quand il vient en France, eh bien, il aime lire le 1, vous savez, l'hebdo, le 1.
Très bonne
hebdo. Mais la radio reste évidemment sa source principale d'information. Stéphane, lui, il a Le Parisien et 20 minutes sur son smartphone, plus des magazines papier, comme un magazine sur la photo, l'histoire et des revues scientifiques. Il dit que c'est quand même plus passionnant, les versions papier, on est d'accord. Philippe, lui, il est totalement passé au numérique avec le Télégramme, Le Monde, La Croix, et puis il surfe de temps en temps sur l'Obs et Le Parisien. Donc quand même, vous vous informez avec la presse classique,
mais
c'est
numérique.
Sur le numérique, exactement. Vous continuez à réagir
beaucoup.
Sur Twitter, hashtag Europe 1.
Chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint dans ce studio et vu le week-end qu'il a passé, ça constitue déjà en soi une performance sportive. En effet, selon le témoignage du patron du pub The Old Tavern, Jérôme Lacroix aurait fait hier soir, pour oublier la cuisante défaite du 15 de France, la fermeture, comme on dit, une troisième mi-temps compliquée.
Les chevaliers du Zodiac, toujours à l'attaque, chansons des héros.
Ben allez Jérôme, on se ressaisit, journal des sports. À la une, justement, un drôle de mal de crâne.
Et au milieu, coule le 15 de France. Les Bleus du rugby ont encaissé hier en Angleterre, dans le tournoi Destination, leur plus lourde défaite depuis l'après-guerre. Depuis 108 ans, 1911, 44 à 8, 36 points d'écart, c'est Waterloo. 6 essais à 1, dont 3 inscrits par l'anglais Johnny May, surnommé Forrest Gump par ses coéquipiers tant il court vite. Des Français dépassés dans tous les secteurs de jeu.
C'est juste parce qu'il court vite qu'on l'appelle Forrest Gump. Rassurez-nous, c'est pas une autre qualité qu'il aurait.
Non, c'est bien pour ça qu'en tout cas par ses coéquipiers à l'entraînement, il est chambré sur sa pointe de vitesse. Des Français qui ont été hier dépassés dans tous les secteurs de jeu, comme le détaille le capitaine français Guillaume Guirado.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris une danse pareille, donc voilà, ça fait mal. Ce soir, tout simplement, pas invité sur la vitesse de jeu, sur la vitesse d'organisation, sur le jeu au pied, sur un peu tout. Et aujourd'hui, ils ont une train d'avance. Il faut se remettre en question rapidement et surtout tirer des enseignements pour plus jamais que ça arrive.
Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1. Alors pour les Bleus, désormais quelques jours en famille avant de revenir au centre de Marcoussis vendredi. Préparation du prochain match, l'Écosse dans 2 semaines. Des Anglais qui vraiment n'ont pas été tendres ce week-end avec la France. Les filles ont elles aussi été battues 41-26. Les moins de 20 ans, 31-19. Score final, tout match confondu, j'ai compté. 116-53 pour l'Angleterre, on efface tout.
Oh oui, on efface tout directement. Le tennis, c'est les Roumaines sur la route des filles de l'équipe de France.
France-Roumanie en demi-finale de la Fed Cup, ce sera les 20 et 21 avril. En France, sera-ce avec Caroline Garcia? On ne sait pas, elle n'a pas confirmé sa présence. Hier et samedi, son retour après 2 ans d'absence pour privilégier sa carrière personnelle a fait beaucoup de bien aux Bleus. Victoire 3-0 en Belgique en quart de finale, dont 2 points apportés par Caroline Garcia.
Le foot, Jérôme, et décidément le PSG accumule les soucis en ce moment.
De Paris la gagne, on passe à Paris la guigne, s'amuse ce matin à Ouest France. Je trouvais que ça résumait très bien la situation. À la veille du match le plus important de la saison à ce stade, 8e de finale de la Ligue des Champions en Angleterre, demain face à Manchester United. 3 blessés au PSG. Neymar, on le savait, et depuis samedi, le prolifique attaquant Cavani, ça c'est vraiment la tuile, 17 buts en Ligue 1, et le défenseur belge Meunier. Et pendant ça, les Mancuniens ils brillent. Victoire 3-0 à Fulham samedi en championnat avec 2 buts de Paul Pogba et 1 but d'Anthony Martial, un autre Français. Ainsi, les fans anglais, dont ce tout jeune homme, se prennent à rêver d'une large victoire.
1000-0. 2-1. Pogba et Rashford.
Je pense que Manchester a plus de chances de gagner car Cavani ne joue pas, Neymar ne joue pas et j'ai entendu parler de la situation de Rabiot. C'est pas bon pour Paris car ils n'ont pas de milieu de terrain. Si je devais jouer de l'argent, je parierais sur United.
Des propos recueillis par Julien Froment, les Parisiens s'envolent aujourd'hui pour l'Angleterre. Manchester United, PSG, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Demain soir, à suivre en intégralité sur Europe 1.
Pop, vous partez pas comme ça. Un petit pronostic d'abord sur ce match.
Je veux dire un partout.
PSG quand même.
Un partout.
Ouais.
Prenez pas de risque, mon cochon. L'histoire du jour.
Cette histoire, c'est l'ultime hommage rendu hier. Vous entendez les applaudissements nourris par le public nantais de la Beaujoire à Emiliano Sala, leur ex-buteur. C'était hier le premier match depuis que le décès de l'attaquant argentin a été officiellement confirmé. Les Nantais ont perdu ce match contre les Nîmois 4-2. Et également hier, en clôture de cette 24e journée, la victoire des Niçois 1-0 face aux Lyonnais.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Bon, Jérôme, vous m'avez déjà l'air mieux qu'hier soir. Heureusement, tout à l'heure, vous avez votre entretien d'évaluation avec Laurent Guimier, le patron d'Europe 1. Comment vous comptez préparer cet entretien?
Avec des bidons d'eau bénite et du gros sel.
Ah, c'est peut-être votre meilleure chance. Quant à nous, on accueille Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris. Ich bin ein
Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour, bonjour à tous.
La petite ville d'Héry-Moncourt dans le Doubs est en émoi. Peugeot a annoncé son projet de fermer sa dernière usine dans cette ville. Un mot d'ordre de grève est déposé pour aujourd'hui. En quoi cette fermeture est historique?
Ben, Héry-Moncourt et Peugeot, c'est une histoire de famille. Les Peugeot y ont été paysans, puis meuniers. C'est là qu'ils sont passés à l'industrie. Jean-Pierre Peugeot, le premier du nom, a ajouté la teinture au moulin au XVIIIe siècle. Et ses deux fils aînés, Jean-Pierre le second et Jean-Frédéric Peugeot, ont implanté du textile dans le sud de la commune. Sous Napoléon Ier, devant la demande croissante en métal, en 1810, ils ouvrent une fonderie. Bon, le projet échoue, mais ils ne se découragent pas et se reconvertissent vers les mécanismes d'horlogerie.
Et c'est à Héry-Moncourt qu'ils ont créé les premières voitures Peugeot?
Ben oui, en partie dans leur usine de terre blanche, sur le sol d'Héry-Moncourt, aujourd'hui reconverti en musée archives. Ils avaient fabriqué des vélos et c'est dans cette grande bâtisse blanche, ainsi que dans les deux usines des communes voisines, qu'Armand Peugeot a conçu les premiers véhicules présentés à l'exposition universelle de 1889, des tricycles à vapeur. Et deux ans plus tard, sortait la première vraie voiture automobile à essence.
Et est-ce que la famille Peugeot réside encore sur place?
Ben, après avoir donné des maires dans la commune pendant des décennies et même construit successivement deux élégantes, disons, maisons bourgeoises sur place, la famille a renoncé à ses demeures. L'an passé, d'ailleurs, la commune a hésité à racheter pour 1 euro symbolique le château Peugeot, mais les frais d'entretien sont trop élevés pour le petit budget de cette petite commune. Pour Héry-Moncourt et ses 3000 habitants, la perte de son usine est donc vécue comme une catastrophe économique et une rupture avec sa longue identité historique.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, nous recevrons Alexandre Mars, le président du jury des Trophées de l'Avenir qui ont lieu ce soir et qui récompense les entreprises les plus visionnaires du moment. C'est que vous me disiez que dans la catégorie mobilité, vous aviez un favori, un fabricant qui a eu l'idée d'intégrer des roulettes à ses chaises de bureau, je crois.
Sauf qu'elles glissent extrêmement bien, ces roulettes.
Ah !
Tu vois ?
Hop, je pars ! Hop, je viens !
Ah, innovation quand tu nous tiens ! En attendant, je vous propose d'écouter Random, Eddie Depreto sur Europe 1.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures à la pointe de l'actu et aussi à la pointe de l'innovation. Grâce notamment à Céline Dacosta.
Ah, je me suis fait un compte Twitter, Eve.
Ah, ah bon. Mais je vais te suivre.
Moi, je te suis déjà. Mais je ne sais pas comment me connecter.
Mais surtout, surtout grâce à nos invités, plus qu'à Céline alors, qu'auront lieu ce soir les Trophées de l'Avenir récompensant les entreprises les plus innovantes ou visionnaires. Nous recevrons le président du jury de ces trophées, Alexandre Mars.
Et il est 6h18.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le cofondateur du restaurant Bagelstein a déposé plainte. Les vitrines d'au moins deux de ses enseignes parisiennes ont été taguées avec l'inscription « Juden », juif en allemand. Le ministre de l'Intérieur dénonce une ignominie. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Grogne des auto-écoles. Les traditionnels accusent les plateformes numériques de ne pas jouer avec les mêmes règles et de créer donc une concurrence déloyale. Manifestation sur le périphérique parisien et gros bouchon en perspective dès 6h30 ce matin. Enfin, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, officiellement candidat à un cinquième mandat. Le chef de l'État au pouvoir depuis 1999, va se présenter à l'élection présidentielle du 18 avril, malgré son état de santé.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce lundi 11 février. L'actualité, c'est aussi les trophées de l'avenir qui seront décernés ce soir par Europe 1. Avec ces trophées, notre radio récompense tous les ans des entreprises pour leur sens de l'innovation dans les domaines de l'alimentation, des transports, de l'environnement ou de l'éducation. Bonjour Alexandre Mars.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, millionnaire, philanthrope et c'est vous qui présidez ce jury des trophées de l'avenir. On va en parler, mais ma première question sera plus simple, plus prosaïque, plus intéressée aussi. Comment on devient entrepreneur, millionnaire, philanthrope?
Waouh, on a à peu près une heure devant nous pour voilà. Tout expliquer, d'accord.
Comment vous avez déjà quel est votre parcours? Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui?
En tentant ma chance, mais en ayant une mission. Moi, je suis depuis tout petit, je savais qu'il fallait que j'ai les moyens de mes ambitions. Et quand j'étais plus jeune que ça, je me suis dit que c'était en développement des entreprises, parce que c'est peut-être ma seule qualité.
Vous avez dit, pour aider les gens, il faut déjà gagner de l'argent. Exactement. Il faut déjà avoir les moyens de les aider.
En tout cas, c'était ma vision quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, si je veux vraiment aider les gens, il faut que j'ai une certaine liberté. Je me suis dit, la seule manière d'avoir la liberté dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens. J'ai travaillé extrêmement dur. J'ai eu les moyens. Le jour où j'ai eu suffisamment de moyens, j'ai décidé que jusqu'à la fin de mes jours, ma vie ne serait que de m'occuper des autres.
C'est ça qui est très intéressant, juste dans votre parcours, parce qu'on ne va pas en parler pendant 5 minutes, mais c'est quand même fascinant, parce que moi, quand je vous ai découvert, entrepreneur, millionnaire, philanthrope, on pense que philanthrope, ça vient en troisième. Une fois qu'on a tout réussi, qu'on a plein d'argent pour soi, on décide d'être philanthrope. Vous, c'est plutôt dès le départ, vous étiez animé par cette envie d'aider les autres, dès le départ.
Oui, c'est une mission, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'arriver à voir ce qu'on voit au quotidien et puis pas l'accepter. Et moi, c'était quelque chose que j'accepte pas depuis longtemps. Mais sans les moyens, c'est impossible. Alors, vous pouvez aider 2-3 personnes et c'est déjà très important. Je m'étais dit, je pouvais faire plus. Et quand vous êtes entrepreneur, vous savez, Mathieu, vous avez toujours cette volonté de faire des grandes choses. Moi, je me suis dit, ces grandes choses, j'essaierai de les faire un jour ou l'autre. Pas pour faire plus d'argent, pas pour avoir 2 voitures de plus, mais juste pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui souffrent.
Alors, les trophées de l'avenir, ça récompense donc des entreprises innovantes. Vous, j'imagine que vous avez su investir dans... Vous avez eu du flair pour comprendre ce qui allait être les entreprises de demain. Donc, vous êtes bien placé pour être le président de ce jury. Qu'est-ce qu'on a comme entreprises qui sont pressenties cette année? Quelles sont les entreprises qui vous ont marqué déjà?
Il y en a 40, donc c'est pas forcément... Et je sais que vous en connaissez quelques-unes,
ouais,
Mathieu.
Quelques-unes.
Il y en a 40 des nominés. C'est assez incroyable la qualité qui a été trouvée. Alors, je voulais juste rapidement... C'est la quatrième année où Europe 1 donne justement ses prix. Il faut aussi voir que là-dessus, Europe 1 a été un petit peu visionnaire. Parce qu'il y a 4 ans de ça, quand vous parliez des trophées de l'avenir, les gens disaient « qu'est-ce que c'est l'avenir ? Pourquoi ?» Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est les gens qui ont gagné par le passé ont fait déjà des grands succès. Si tu prends « c'est qui le patron ?» cette marque aujourd'hui.
On la voit partout maintenant.
Bah oui, mais ça, moi j'aurais appelé les grands prix de l'avenir le grand prix des signaux faibles. Tu sais, quand tu posais la question, Alexandre, comment t'as fait ça ? En fait, les entrepreneurs, ils arrivent à définir les signaux faibles avant les autres. Les petites choses que tu vois au quotidien et que tu dis si ça devient réellement important, ça sera un signal fort. Un entrepreneur arrive toujours à voir les signaux faibles avant les autres. Quand c'est un signal fort, c'est trop tard. Et aujourd'hui, les 40 nominés sont des gens qui ont réussi à définir ce signal faible un petit peu quelques secondes avant les autres. Donc des gens assez incroyables qui arrivent à définir ce que doit être le monde de demain. Le monde de l'avenir, c'est un monde où le sens... Et à une valeur qui est totalement différente. Il y a 10 ou 20 ans, enfin, on le sait tous ici dans le studio, le sens n'existait pas, assez peu. C'était faire plus. Et aujourd'hui, le monde a évolué.
Eva Rock.
Votre fondation EPIC finance des projets humanitaires. Est-ce que vous les sélectionnez de la même façon?
Bonne question. En fait, à peu près de la même façon, en fait, on passe plus de temps, puisque quand on trouve ces organisations, on les sélectionne, on passe 7 mois à traverser le monde pour trouver un nombre très limité d'organisations que nous allons financer par la suite. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu 4000 dossiers de candidature, on en a sélectionné 5.
Quelques-unes que vous avez sélectionnées, par exemple?
Si on prend celles qui sont en France, on va prendre une organisation comme Simplon, comme Sport dans la Ville, comme Agir pour l'École, des organisations qui vont aider justement ces jeunes, la plupart du temps, qui sont nés au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, dans la mauvaise ville parfois, qui, si on ne les aide pas, Eva et vous le savez, auront... une vie qui sera totalement linéaire ou pas, ou pire. Ce qui veut dire qu'on va devoir changer la trajectoire. Pour changer la trajectoire de ces jeunes, il faut les aider.
Mais vous les aidez en allant chercher des sous chez les plus grands fortunés ou comment vous faites?
On va trouver ces organisations et puis après on va aider à les financer grâce à l'argent qu'on va aller débloquer chez les gens qui ont les moyens, mais pas que. Les entreprises aussi, nous on pense que le monde de demain sera un monde qui sera plus juste si les entreprises, et les grandes entreprises en particulier, partage plus.
Mais combien d'entrepreneurs sont dans votre cas? On partage cette philanthropie. Vous dites, il y a 20 ans, ma génération, c'était oncle Picsou, il fallait posséder, nous avons oublié le partage, on a oublié les autres, on voulait notre voiture, notre bureau. Et vous dites, les millénials ensuite sont arrivés. Et est-ce que vous sentez une différence chez l'entrepreneur millénial?
Moi, je le vois au quotidien. Je pense que cette génération des moins de 30 ans est en train de mettre une pression sur les générations d'avant. Pourquoi? Et encore une fois, peut-être que nous, on était une génération de l'avoir. Et cette génération qui arrive, c'est plutôt une génération de l'être ou du partage. C'est intéressant de voir la semaine dernière, je parlais à une conférence de l'entrepreneuriat à Paris. Il y avait le ministre de l'économie qui est venu parler, faire l'introduction. 10 fois en 10 minutes, le ministre de l'économie française a utilisé le terme sens et partage. Est-ce que vous imaginez ça il y a 10 ans?
Non, effectivement.
Et voilà, le monde change. Et là aussi, c'est intéressant, Mathieu, c'est des signaux faibles.
Mais il faut aussi analyser aussi la différence entre les effets d'annonce. Enfin, il utilise le mot et de sens. C'est bien que ce mot commence à rentrer dans le langage des politiques, mais est-ce que c'est une
des faits? Mais tu as parfaitement raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, on commence aussi à plus accepter ce qui est inacceptable. Des choses assez simples. Comment on peut imaginer qu'une entreprise comme Apple ne paie pas ses impôts en France? Et ben tu vois, ça c'est quelque chose qu'on a pu pendant des années accepter sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui,
on avance dessus.
Merci beaucoup Alexandre Mars, vous êtes donc le président des Trophées de l'Avenir, le président du jury de ces Trophées de l'Avenir qui ont lieu ce soir et qui sont évidemment un événement Europe 1. Merci d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et les éclaircies aussi sur l'Ouest.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de David Doucan, voici la météo de Céline Dacosta. Un ciel encore nuageux,
oui,
Céline.
Avec même un reste d'averses hein, qu'on va retrouver sur le nord-est. Un petit peu de neige sur les reliefs, de la pluie sur les Pyrénées et déjà quelques éclaircies qui vont arriver sur les côtes atlantiques et près de la Méditerranée. Ciel en revanche agité pour la Corse encore ce matin avec du vent. Je disais déjà quelques éclaircies qui elles vont revenir cet après-midi par le nord-ouest. Et tout le monde en profitera des Hauts-de-France à la Gironde en passant par l'Île-de-France. Ça va rester en revanche plus mitigé avec encore des averses, un ciel couvert du sud-ouest au nord-est. Soleil encore pour le pourtour méditerranéen avec du vent. Amélioration aussi pour la Corse qui va retrouver cet après-midi son soleil.
Un mot des températures.
Fraîche ce matin, hein, 2 degrés à Orléans, 4 à Paris, 6 à Agen. Par contre, il fait déjà 10 degrés à Perpignan, 11 à Nice et 15 à Bastia. Puis cet après-midi, les maximales baissent, c'était prévu, surtout dans le nord-est et dans le centre-est, où la moyenne sera de 4 à 8 degrés. 8 à 10 degrés, c'est pour le nord et l'ouest. 10 à 12 dans le sud-ouest et jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée.
Merci Céline, dans une minute, le journal de David Doucan.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de rire menées tambour battant par un tandem de choc. Toujours bon pied, bon oeil et dont on se demande parfois où elles vont chercher toute cette énergie. Céline Dacosta et Baroque.
Arrête de bâiller, ça me fait bâiller.
Je t'en ai l'heure là, je suis fatiguée. Je me fais un café.
Toi aussi t'es au bout du rouleau ?
Ah ouais, je suis au bout du rouleau.
Lui, heureusement, il est en pleine forme, revigoré par un joli week-end de 4 jours qu'il s'est offert comme un prince. On fête ce matin le retour de David Doucan.
C'est génial.
Super.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Les moniteurs d'auto-école sont en colère, ils redoutent une réforme du permis de conduire. Opération escargot sur le périphérique parisien ce matin et manifestation dans plusieurs villes de France. C'est un document qu'Europe 1 a pu consulter, un rapport de police après la manifestation parisienne de samedi. Et vous allez découvrir le parcours d'un casseur particulièrement violent dans les rues de la capitale. Et enfin, les mauvais résultats du 15 de France dans le tournoi des Six Nations de rugby. Victoire nette de l'Angleterre hier, 44 à 8. Score brutal et réaction du sélectionneur national français dans ce journal.
Europe 1.
Les moniteurs d'auto-école commencent à se rassembler en ce moment sur le périphérique parisien. Manifestation porte de Clignancourt, porte de Vincennes, d'Auteuil et porte d'Orléans. Ils craignent une réforme du permis de conduire. Pas de projet de loi pour l'instant, mais la volonté de réduire son coût et de déréguler la profession. Reportage sur les raisons de cette grogne dans une auto-école parisienne avec Claudia Bertram.
Ça fait déjà plus de 30 heures que Jean-Paul et son collègue accompagnent cet élève au volant de la petite citadine de formation.
On fait un petit point sur ce qu'on a vu la dernière fois.
Un apprentissage de la conduite et un suivi personnalisé indispensable, insiste le moniteur.
Si vous voulez, on a une équipe pédagogique, on est capable d'échanger sur la progression d'un élève pour savoir exactement où il en est. Il faut une certaine continuité dans la formation que vous allez apporter. Chose que vous n'aurez sans doute pas dans une plateforme.
Et c'est ce que déplorent les auto-écoles traditionnelles, moins d'accompagnement pour les élèves, donc une formation de moins bonne qualité dispensée par les plateformes. Sans compter, s'agace cette patronne d'école, une concurrence déloyale.
On est obligé d'avoir un local, on est obligé d'avoir une salle de code, tout ceci à un certain prix. Les plateformes qui, elles, emploient des auto-entrepreneurs, moniteurs auto-entrepreneurs, qui ne payent pas de TVA, puisqu'ils ne sont pas salariés.
Des auto-écoles qui dénoncent l'ubérisation de la formation à la conduite, crainte renforcée par une autre mesure, la possibilité pour les candidats de s'inscrire eux-mêmes directement à l'examen, sans passer par l'avis d'un moniteur.
Reportage signé Claudia Bertram. Je vous précise que les manifestants se rejoindront ensuite place d'Italie à Paris à 10h. Une femme et un enfant ont perdu la vie samedi soir à Lyon. Après l'explosion d'une boulangerie au rez-de-chaussée, un incendie s'est déclaré dans cet immeuble de 2 étages. 4 personnes ont aussi été légèrement blessées. Les policiers en charge de l'enquête privilégient la piste criminelle. Les gérants du restaurant Bagelstein dans le 4e arrondissement de Paris ont déposé plainte. La vitrine de leur établissement a été taguée en lettres jaunes du mot « Juden », ce qui signifie « juif » en allemand, exactement comme le faisaient les nazis, notamment dans les années 30. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dégradation volontaire aggravée et provocation à la haine raciale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles un manifestant a eu la main arrachée samedi aux abords de l'Assemblée nationale. L'homme a été opéré dimanche matin. Plusieurs vidéos le montrent en train de se baisser pour ramasser une grenade de désencerclement qui a explosé à ce moment-là.
La suite, non ? On a eu un petit temps, on a eu une petite hésitation. Peut-on se passer du directeur dans une école primaire ou maternelle ? C'est une conséquence possible du projet de loi de réforme de l'éducation nationale qui arrive à l'Assemblée cette semaine. A tout de suite.
Il est 6h34. Il est 6h34, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le projet de loi pour une école de la confiance arrive cette semaine à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est l'intitulé du projet de loi de Jean-Michel Blanquer, une vaste réforme de l'éducation nationale. Mais arrêtons-nous sur un amendement qui sera discuté à partir de demain. Les petites écoles, c'est-à-dire celles où il y a moins de 4 classes, pourraient passer sous la tutelle du collège le plus proche avec disparition du directeur de l'école. Explication Virginie Salmen.
Au départ, l'objectif de cet amendement, c'est de permettre aux petites écoles de moins de 4 classes de profiter des avantages du collège. Matériel de musique, de sport ou d'art plastique. Mais la conséquence, c'est qu'avec cette organisation, il n'y aurait plus forcément un directeur dans chaque école, mais un adjoint rattaché au collège en charge de plusieurs écoles. Pour Philippe Martin, directeur d'élémentaire en Normandie, ce texte décapite l'école.
Est-ce que vous imaginez demain un parent qui scolarise son enfant de 3 ans en petite section, donc première année de maternelle, qui devra aller au collège s'il y a un souci. Parce que c'est ça en fait, il n'y aura pas d'interlocuteur sur place.
Les parents d'élèves de la PEP comme de la FCPE sont inquiets. Pour Rodrigo Arenas, président FCPE, le directeur, c'est la figure de l'autorité qui est indispensable au bon fonctionnement de l'école au quotidien.
Je pense notamment soit à ces enfants qui ont un comportement violent, ou alors parfois à des enseignants aussi qui ont des attitudes un peu trash avec certains élèves, c'est ce qui nous remonte aussi du terrain parfois. Vous voyez, la première personne qui a le rôle de médiation avec les parents, c'est précisément le directeur ou la directrice d'école.
Le rapprochement ne serait pas systématique, c'est une décision locale, mais si cet amendement déjà voté en commission est adopté par l'Assemblée nationale, il pourrait concerner plus de 20 000 petites écoles.
Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Et revenons maintenant sur la manifestation de samedi dernier, notamment à Paris, émaillée de nombreux incidents. Europe 1 a pu consulter un document. Il s'agit d'un rapport de police. Les fonctionnaires ont suivi un casseur toute la journée dans les rues de la capitale avant de finir par l'interpeller. Récit et information signé Salomé Legrand.
Son périple commence boulevard Saint-Michel quand le jeune homme de 25 ans sort un marteau de son sac à dos pour s'attaquer à la vitrine d'une banque. Il est presque 14h30, il porte un gilet jaune sur une tenue entièrement noire, un masque et des lunettes de protection. Il enchaîne avec la société d'assurance voisine. Parce qu'il évolue au milieu d'un groupe très hostile, disent-ils, les policiers reportent son interpellation, mais ils le suivent, constatant les destructions vitrine après vitrine. À chaque fois, le jeune casseur récupère les morceaux de marbre des devantures pour les jeter sur les policiers en uniforme. Il s'en prend également à plusieurs voitures, une Porsche incendiée, des BMW ou encore tous les modèles d'exposition d'une concession Renault. Il attaque également tour à tour une voiture de police, un véhicule de patrouille Sentinelle et un fourgon de l'administration pénitentiaire. C'est une charge des CRS près des Champs-Élysées qui permet aux policiers d'isoler et d'arrêter le jeune homme après 3h30 de violence. Proche de la mouvance d'ultra-gauche, il est déjà connu des services de police pour des dégradations.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe. 50 milliards de dollars pour la construction de 12 sous-marins, c'est le contrat du siècle. Il est signé officiellement aujourd'hui à Canberra entre la France et l'Australie. L'entreprise française Naval Group, ex-DCNS, avait été choisie, on s'en souvient, en 2016 pour livrer 12 bâtiments nouvelle génération à la marine australienne. 44-8, voilà un score qui fait mal. C'est la défaite cinglante infligée hier par l'Angleterre à l'équipe de France de rugby dans le cadre du tournoi des 6 nations. L'entraîneur du 15, Jacques Brunel, reconnaît que ses hommes n'ont pas été au niveau.
Oui, il fait mal, le score est lourd. On s'attendait à un match difficile, un match compliqué, avec une équipe qui allait nous mettre sous pression. Elle l'a fait, mais on n'a pas su s'en sortir. On n'était pas en place, on était désorganisés à ce moment-là et on a pris des essais qui sont quasiment les mêmes. L'avenir nous dira si on est si loin que ça tout le temps. Mais bon, aujourd'hui, c'est un fait qu'on était distancés, on était loin de l'Angleterre. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas l'Angleterre dans 6 mois, c'est l'Écosse dans 15 jours. Même si c'est dur, même si le score est dur, il va falloir être capable de rebondir et d'évacuer cette défaite pour repartir de plus belle et tâcher de gagner à Paris.
Jacques Brunel, le sélectionneur national du 15 de France, au micro européen de Simon Rubin. Et en Ligue 1 de football, les Lyonnais ont perdu 1-0 à Nice en clôture de la 24e journée.
Merci, c'était le journal de David Doucan. Et David, durant votre absence, c'est le jeune François Geffrier qui vous a remplacé. Est-ce que vous avez pu l'écouter? Vous l'avez trouvé comment?
Je ne lui promets pas un grand avenir.
Oh, vous êtes vache! Vous êtes vache quoi. Quand même, il était pas mal. Elle, je sais que vous l'adorez.
Je pense tout le contraire en plus. Hein. Je pense exactement le contraire.
Et elle, David, je sais que vous l'adorez. Elle vous a énormément manqué. C'est la seule présentatrice météo qui s'adresse directement à la pluie, souvent pour l'engueuler d'ailleurs.
Coquinette! Coquinette de la pluie!
Céline Dacosta, faisons un point sur le temps.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Alors, coquinette de pluie, est-ce qu'elle est là la coquinette de pluie? Non, ciel couvert ce matin.
Ouais, il en reste un petit peu quand même. Des averses sur le... Ça m'a perturbé ce coquinette. Des averses donc sur l'est du pays, du sud-ouest au nord-est d'ailleurs. Hein, on en aura également cet après-midi, de la neige sur les reliefs. Et puis encore un petit peu d'onde dans le sud-est. Les éclaircies, elles, reviennent, c'est la bonne nouvelle, cet après-midi sur le nord et l'ouest du pays. Le ciel sera encore mitigé pour les autres, sauf sur le pourtour méditerranéen et la Corse, où là, il va briller le soleil.
Merci Céline. Elle, c'est notre soleil à nous, Eva
Rock. Mon Dieu, ce 11 février, c'est l'anniversaire de David Abiker, notre monsieur revue de presse que vous retrouverez tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. Et bien vous, quel journal ou magazine lisez-vous? Comment vous vous informez? Depuis 5h du matin, vous nous répondez. Alors beaucoup, je vous confirme, mais beaucoup sont passés sur le numérique. Rose Magie nous dit la PQR de temps en temps, la PQR, la presse quotidienne régionale, pour les infos locales, quelques magazines féminins. Et l'info, c'est Europe 1 via les alertes, plus l'AFP. Ensuite, je vais lire en ligne Le Monde ou Le Parisien. Philippe nous dit aussi qu'il est passé au numérique, ou encore Jérémy, il s'informe grâce au pressing. Notre pressing à 5h20, mais sinon c'est l'application Europe 1, 20 minutes.
D'information qualité.
Mais oui, 20 minutes aussi sur smartphone, ou encore Ouest France aussi en version numérique. Merci pour toutes vos réponses sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent au programme. Une série à ne pas manquer ce soir à la télé, le palmarès des pires gares de France selon les voyageurs. Et enfin, devant la crise qui ne faiblit pas, cette question, quelle réponse politique alors que l'idée du double vote de mai s'éloigne? Voici le sommaire alléchant, mais pas étonnant, des trois fantastiques, car comme dirait Céline...
On est fantastiques jusqu'au bout. Hein.
Jusqu'au bout.
Il est 6h41. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les moniteurs d'auto-école en colère, ils craignent une réforme du permis de conduire. Plusieurs rassemblements en ce moment sur le périphérique parisien, aux portes de Clignancourt, Vincennes, Auteuil et Orléans. Manifestation place d'Italie à 10h. Une femme et un enfant ont perdu la vie samedi soir à Lyon après l'explosion d'une boulangerie au rez-de-chaussée. Un incendie s'est déclaré dans cet immeuble de 2 étages. 4 personnes ont aussi été légèrement blessées. Les policiers en charge de l'enquête privilégient la piste criminelle. Enfin, 44 à 8 défaites cinglantes infligées par l'Angleterre à l'équipe de France dans le cadre du tournoi des 6 nations de rugby. Et en Ligue 1 de football, les Lyonnais ont perdu 1-0 à Nice en clôture de la 24e journée.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Dieu, que le week-end m'a paru long sans eux. Dimanche au parc, j'ai eu une fausse joie. J'ai entendu une femme crier Axel, mais...
C'était une dame qui appelait son chien.
Oui. Fausse joie. Quelle joie aujourd'hui de retrouver les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Trois éditorialistes modernes en prise avec leur temps. Surtout Axel, comme on a pu le constater vendredi lors de l'énumération des nommés des Victoires de la musique.
Les chansons nommées sont Boulevard Désert, Aya Nakamura, Aurel San et Damso.
Je connais plus rien.
Désolé Axel, Tino Rossi n'a pas eu une seule nomination. On commence par la politique
et
avec vous.
Non plus.
Mickaël Darmon, l'acte 13 des Gilets jaunes a montré une virulence des attaques contre les institutions et les symboles de la démocratie avec les rassemblements devant l'Assemblée nationale et le Sénat. D'où cette urgence de trouver la manière de sortir de la crise. Pourtant, le président semble prendre son temps.
Et oui, c'est très intéressant la période de crise parce que ce sont des accélérateurs de particules qui permettent de révéler les comportements. Alors sur le bureau du président de la République, il y a un certain nombre d'options et étonnamment beaucoup d'hésitations. Un ou même 2 référendums seraient à l'étude pour découpler sur 2 scrutins des questions institutionnelles et fiscales. C'est la réflexion qui est menée. Mais pour cela, il faudra encore que l'idée d'un double vote le 26 mai soit écartée. Alors tout le monde s'est mis, de Juppé à Bayrou, en passant par Le Drian et Ferrand, pour expliquer à Macron que c'était vraiment pas la bonne idée. Autre axe qui pourrait passer par la loi, une puissante phase nouvelle de décentralisation. Tout simplement, l'État pourrait transférer aux départements et aux régions et aux métropoles tous les grands sujets qui fâchent les citoyens, sécurité routière, fiscalité locale, etc. La question principale, la prise de décision, parce que les hésitations et allers-retours sont fréquents, ce qui complique la tâche.
Et les Français ont montré leur intérêt pour ce débat national. Ça veut dire que la fin sera un tournant délicat à négocier.
Ah oui, on est abreuvé de chiffres et d'analyses triomphales des pouvoirs publics sur le succès du débat. Alors c'est incontestable, hein, mais il faut quand même garder la tête froide parce que plus le débat est suivi par les Français, plus les attentes sont élevées et plus les décisions qui devront être prises doivent être fortes. On comprend d'ailleurs que la dissolution, par exemple, de l'Assemblée, c'est pas une option. D'autant plus que la droite, eh bien, fait passer aussi le message. Écoutez, on n'en veut pas parce qu'elle ne veut pas être en situation de devoir gérer un pays qui ne s'apaise pas. On l'a encore vu donc, ce week-end. Tout le monde a réagi à l'incendie de la maison donc, de Richard Ferrand. Mais combien d'élus La République En Marche ont attaqué depuis des mois dans l'indifférence générale? La vie politique, on le voit également, s'arrête chaque samedi, suspendue à décompter, à subir les mobilisations et les affrontements. Bref, La République a attrapé la jaunisse. Alors les décisions que prendra le président devront être capables de soigner notre démocratie. Mais surtout, il faudra décider et agir vite.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. De la politique, on passe à l'économie. Enfin, l'économie. Souvent, quand on voyage, au gré de mes voyages, on arrive parfois dans une gare et on se dit... Oula. Quelles sont les pires gares SNCF de France? Axel, vous avez la réponse.
Et ben justement, oui, la SNCF effectivement a mené une enquête auprès des passagers pour savoir quels étaient ceux qui disaient « Oula » quand ils arrivaient dans une gare, tant elle était peu propre, peu sûre et les panneaux étaient mal indiqués.
Voire même donc, carrément moche.
Voilà. Et donc là, on a un hit parade. Alors, la pire gare de France, bah écoutez, je suis désolé pour les Bretons.
Oh non, je ne suis pas d'accord.
Rennes.
Non, je ne suis pas d'accord.
Qui est très, très mal.
C'est pas la
Alors,
pire, hein.
Sur le critère orientation notamment, les indications à la gare de Rennes,
il faut connaître.
Alors, pour sa défense, la gare de Rennes explique qu'elle est en travaux depuis 4 ans.
Il y a une très belle brioche dorée. Non, c'est pas la plus pourrie.
Alors, très mal notée également. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une nouvelle gare qui vient d'être créée au milieu de nulle part.
J'adore les gares.
C'est la gare de Montpellier Sud.
Je ne la connais pas encore.
Qui a coûté 135 millions d'euros. Il y a très peu de trains et il y a peu de passagers. Mais le peu qui y sont, apparemment, se perdent totalement. Ensuite, en matière de sécurité, la pire gare de France. Oula. Alors là, je me tourne vers Eva. J'ai une question anodine, Eva. Quand vous allez à Nice, vous y allez comment? Vous arrivez où?
Non mais j'y vais pas en train parce que c'est trop long. Voilà.
Et votre empreinte carbone?
Oui, je sais.
Vous y allez en avion pour une si courte distance?
Non, en vélo.
Donc Nice arrive en bonne dernière position pour ce qui est de la sécurité.
Ah mais c'est la gare de Nice-Riquier?
Nice-Riquier.
Oui. D'accord.
Parce qu'il y a plusieurs gares.
Oui, il y a plusieurs gares. Oui.
Bon, alors apparemment, il vaut mieux prendre l'autre gare que Nice-Riquier.
Petit conseil. Petit conseil.
Alors, non seulement la gare de Nice-Riquier est peu sûre, mais elle est aussi peu propre. Elle arrive dernière également en termes de propreté. Et juste derrière Nice-Riquier, nous avons Paris-Gare du Nord. La Gare du Nord, vous savez, qui avait été rebaptisée par un grand patron, ce qui avait énormément vexé Manuel Valls, un grand patron anglais qui avait dit que c'était le terminal des immondices de l'Europe. Mais du coup, ça avait tellement vexé Manuel Valls qu'il avait passé un coup de fil à Guillaume Pepy, qui du coup, depuis, a engagé des travaux.
Des travaux importants.
On peut dire merci à ce patron anglais pour rénover la Gare du Nord.
À l'inverse, Axel, quelles sont les gares les mieux notées?
Alors, eh bien oui, c'était la gare de Meuse TGV. Je ne la connais pas. Elle est à mi-distance. C'est cette nouvelle gare entre Metz et Nancy.
Ah,
alors,
je la connais. Très belle gare. Il y a aussi rutilante.
Belfort, Montlebar, Morlaix, Lorient, Poitiers. On plaisante là-dessus. D'ailleurs, d'une manière générale, les gares françaises sont plutôt assez bien notées avec une note moyenne de 15 sur 20. On plaisante là-dessus, mais en fait, c'est très important parce que vous savez, la SNCF a dans l'idée, sur le modèle des aéroports, d'énormément développer les boutiques pour en transformer en galeries commerçantes, ce qui permet de générer des loyers. Et donc, c'est important si vous voulez, parce que vous avez là quand même une clientèle captive, des passagers qui attendent de prendre leur train. Et donc, si vous voulez générer du trafic, eh bien, il faut avoir des gares propres, sûres et bien indiquées.
Moi, je donne ma palme à la gare de l'Est à Paris. Très belle gare.
C'est vrai.
Déjà architecturalement. Et en plus, beaucoup de très bons commerces, notamment Starbucks. Enfin, c'est une très belle gare.
Sinon, on l'aime bien. Sinon, on peut aller chez Eva Rock à Nice en passant par la Nice, la gare Riquier.
Non, pas Riquier, justement. En évitant Riquier. Eva Rock, justement, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors, je vous propose de regarder Zone Blanche sur France 2 à 21h. C'est la saison 2. Et je vais commencer par une critique. Parce que si vous n'avez pas vu la première saison, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de suivre. Et même si c'est le cas, France 2 nous facilite pas la tâche parce que la saison 1 a été diffusée en avril 2017, au temps des dinosaures dans l'univers médiatique où le zapping est quasi de règle. Donc il va falloir vous souvenir de tout ça. Passer ce gros bémol, c'est une très bonne série belge qui nous plonge au cœur de la forêt du village de Villefranche, dans le Doubs, dans les Vosges, là où les portables ne passent pas. Une zone blanche inquiétante à laquelle a bien du mal à s'habituer le nouveau procureur. Discussion avec un des flics de la bourgade surnommé Nounours.
Ça y est, c'est bon, on peut y aller?
J'ai pas pu. Hein. Il y a des gens qui peuvent disserter des heures sur le plaisir de régner dans la nature. Moi, je me sens observé, ça me bloque.
Ça fait seulement 4 mois que vous êtes là, vous n'êtes pas prêt, c'est tout. On va s'arrêter à la station de service un peu plus loin, il y a des toilettes.
Je ne trouvais pas qu'il y ait quelque chose dans l'air.
Ça sent comme une odeur de jasmin. Et de viande faisandée aussi.
Non, je sens rien. C'est peut-être l'automne qui arrive. Vous allez voir, c'est une saison d'enfer.
Ouais, d'enfer. Alors, dans cet univers qui rappelle Twin Peaks, une série de meurtres rythme le quotidien des habitants. Le major Loren Weiss, qui avait été blessé dans la première saison de 3 balles, reprend du service. Elle est toujours déterminée à comprendre, entre autres, ce qui se passe dans cette forêt, dans ces bois, et surtout ce qui lui est arrivé il y a 20 ans de cela.
Qu'est-ce que tu cherches, cette putain de forêt ?
Je cherche celui qui m'a kidnappé il y a 20 ans. J'ai aucun souvenir de lui. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée enchaînée quelque part, au fond d'un gouffre. J'ai dû me couper les doigts pour m'en sortir. Ensuite, je me suis réveillée à l'hôpital. On m'a dit que c'était Bertrand qui m'avait ramenée.
Alors, des meurtres, des enlèvements, un homme déguisé en monstre qui se cache dans la forêt, des jeunes activistes écolos qui sont décidés à mettre fin aux agissements du propriétaire d'une carrière.
Mais ça marche, tout ce patchwork, là ?
Eh bien, ça marche parce que c'est les ingrédients d'un polar classique. Mais en plus, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette série, il y a un décor fantastique qui est empreint de mythes celtes. Ça donne une série quelque peu complexe, mais extrêmement intéressante intellectuellement, avec une pointe d'humour belge qui permet de respirer un peu dans cette ambiance angoissante. C'est à voir sur France 2 à 21h.
Pas mal, pas mal. Intriguant, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Pour Debout les copains, c'est bientôt le bout du voyage, le terminus, pour filer la métaphore ferroviaire d'Axel de Tarlet. Mais on ne va pas pleurer sur le quai de la gare, puisque le meilleur est à venir, le débrief de la matinale, non pas de Nikos vendredi, mais de Bernard Poirette. Il paraît qu'il s'en est passé de belles vendredi. Céline, avec Bernard, vous m'en dites un peu plus ?
Tape String Elephant, tu vas trouver sur Google.
Sacré Bernard.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Oui, et Debout les copains referme ses portes.
La lumière revient déjà, et le film est terminé.
Oui, mais quand le film de Debout les copains est terminé, c'est qu'une autre séance commence, et pas moins gratinée. Autrement dit, le meilleur est à venir, le débrief de la matinale d'Europe 1, une matinale que Nikos Aliagas exceptionnellement ne présentait pas vendredi, officiellement car il avait des enregistrements en télé, officieusement pour s'offrir 3 jours de break coquin avec Hélène Zelani à Venise.
Non, elle est pas bien. Ton vrai sourire. Ton sourire de tombeuse. Voilà.
Alors, Nikos, qu'est-ce que vous avez préféré de la Sérénissime ?
La poitrine.
Non, je parlais pas d'Hélène Zelani, je parlais de Venise. Venise. Bref, passons. Et venons-en au dossier du jour, le dossier Poirette. Bernard Poirette, figure culte de la radio depuis plusieurs dizaines d'années, actuel présentateur de la matinale week-end d'Europe 1 et donc remplaçant d'un jour de Nikos Aliagas. Un journaliste qui en impose, voire même qui intimide, comme nous le confessait Céline Kallmann, qui tremblait comme une feuille avant son journal de 7h30.
Tu sais que j'ai commencé à bosser avec Bernard Poirette à RTL. Ça me fait bizarre, il me fait peur.
Pour vous situer, Bernard Poirette, c'est un peu un croisement entre Gérard Klein dans l'Instit et Clint Eastwood dans Le Maître de Guerre. La tendresse et l'humour de Gérard Klein.
Le président Macron, donc pas du tout hautain, hier à Autun.
Et le côté brut de décoffrage du sergent instructeur Eastwood, notamment quand un réalisateur insolent ose lui demander de faire court parce que soi-disant on est en retard.
Moi, si j'ai du gras, je m'en démerde. Si je suis serré avec un string dans le j'y arrive pas.
Eh oui, Poirette, c'est une authenticité, un phrasé pittoresque qui nous renvoie à cette France d'avant le politiquement correct quand on prenait le temps de vivre. D'ailleurs, le moment le plus douloureux pour Bernard, ça a été la chronique innovation d'Anissa Mbida sur les voitures intelligentes, parce que comment dire ? Bon, c'est pas que Bernard soit nostalgique de l'époque des tractions quand on pouvait rouler à 160 peinards et sans ceinture, mais bon, un peu quand même.
Vous nous dites qu'il va y avoir de nouvelles caméras sur les tableaux de bord, je déteste déjà le sujet.
C'est la vraie grosse tendance du moment, utiliser l'ordinateur un peu comme une babysitter aussi, pour rendre nos voitures encore plus sécurisées.
C'est épouvantable. Vous savez que déjà, quand on ne met pas la ceinture, il faut mettre la ceinture. Oh là là, quelle horreur. J'ai horreur des bagnoles qui causent.
Il a horreur des bagnoles qui causent, Bernard. Mais nous, on adore l'écouter. Et j'ai 2-3 offres gratinées pour la prochaine fois, vivement, vivement en prochain remplacement.
Moi, j'étais dans ma bagnole et c'est Bernard qui causait. Dans le poste.
Oui.
C'est vrai qu'on dirait qu'il sort d'un film d'Audiard.
Ouais, exactement.
Mais rien ne vous échappe, chers amis. Bonne semaine à vous. Merci pour ce passage de relais, Mathieu Noël et Baroque.